L'invité. L'invité. 30 minutes d'échange, de découverte avec un personnage ou acteur de l'éducation. Initiation, création, innovation, invention, tout y est pour votre information sur les antennes de la web radio Éducation. L'invité, c'est le meilleur des rendez-vous radiophoniques en ligne. Chers amis auditeurs de la web radio Éducation, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Invité. Depuis quelques années, une nouvelle réforme introduisant les IPD, inspecteurs pédagogiques délégués, a vu le jour dans le fonctionnement du système éducatif béninois sous ordre enseignement secondaire technique et la formation professionnelle. Une réforme qui sans doute a son rôle à jouer pour une éducation de qualité. Si certains savent peut-être de quoi retourne cette réforme, cette dernière demeure inconnue pour d'autres. Raison pour laquelle nous recevons pour vous l'IPD du département de l'Atlantique. Avec lui, il sera question de faire le tour d'horizon de cette réforme. Il s'agit de l'inspecteur Boniface Guidi. Inspecteur, bonjour.
Bonjour, madame.
Le décor ainsi planté, retrouvez-nous dans un instant, juste après ceci. À nouveau, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, il est question des IPD. Je me tourne à présent vers mon invité. Monsieur Boniface Guidi, vous êtes IPD depuis déjà 4 ans. Faites-nous un peu la genèse de cette réforme.
Merci, madame. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver devant vous pour parler des IPD en général et de l'IPD Atlantique en particulier. Au départ, c'était la direction de l'inspection pédagogique qui coordonnait les actions des inspecteurs sur le terrain. Donc, tous les inspecteurs dans son bureau. Après, on les envoie en mission sur le terrain, ils s'en vont, ils reviennent, et ainsi de suite. Dans les départements, la DIP est représentée par l'IPR, l'inspecteur pédagogique régional, qui est sous la direction départementale, donc qui dirige un service de la direction départementale. Et sous l'IPR, il y a les conseillers pédagogiques, et tout ce qui concerne l'éducation dans l'enseignement secondaire, c'est lui qui gère ça. Mais de façon générale, la relation hiérarchique qui existe entre l'IPR et le DD n'est pas toujours au beau fixe, n'est pas toujours les meilleurs, parce que dans le cas où le DD n'est pas un inspecteur, et la relation n'est pas toujours bonne. Et de pour remédier à cette situation, et pour couvrir tout l'étendue du territoire national, on a créé en 2013 les IPD, Inspection Pédagogique Déléguée, qui étaient dans tous les départements, anciens départements avant. Ils étaient 6 IPD. On a créé par l'arrêté 2013 numéro 227 du 15 novembre 2013. Et les IPD sont nommés. Ah. On leur a adressé une lettre de mission le 17 janvier 2014. Ils ont pris service sans grands moyens et avec les moyens de bord, ils arrivaient quand même à atteindre les objectifs à eux assignés.
Ok. Alors, est-ce juste parce que les relations n'étaient pas vraiment au beau fixe que les IPD ont été institués ou il y a d'autres raisons qui se cachent là-dessus?
Oui, c'est pas ça seulement. Il y a la couverture de l'action pédagogique sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire qu'on va en mission dans les départements, on revient et on n'a pas l'action de proximité. L'accompagnement de proximité n'est pas toujours respecté. Les inspections de proximité ne sont pas choses faites parce qu'il faut demander à la direction et la direction envoie la mission. Donc, pour se rapprocher l'inspection des inspectés, on a créé les CPD.
Les CPD, ok. Et en quoi consiste réellement le travail d'un IPD?
Le travail d'un IPD, en réalité, si je veux dire vrai, les conditions de création de l'IPD sont caractérisées par le taux élevé d'anciens n'ayant jamais rencontré l'inspecteur, le taux élevé de chefs d'établissement n'ayant jamais suivi l'accompagnement de l'inspection. Nous avons aussi la tendance à la banalisation des inspections, des animations pédagogiques. Dans le même temps, la proportion des enseignants allant en classe sans fiche pédagogique et sans pouvoir suivre réellement le rythme de progression augmente. Et c'est ça surtout qui a permis de créer l'IPD. Maintenant, quel est le travail de l'IPD sur le terrain? Le travail de l'IPD consiste en la mise à niveau permanent des enseignants et les maîtres artisans dans les écoles de formation professionnelle. Nous leur faisons les animations, la formation continue est suivie, nous les suivons dans les classes pour l'amélioration de leurs prestations pédagogiques. Deuxième chose, nous participons à l'amélioration de la gouvernance pédagogique des établissements. Nous aidons à diagnostiquer les besoins de formation et d'animation dans les établissements ou dans les bassins pédagogiques. Nous participons à la promotion de comportements déontologiques et d'accompagnement sur l'orientation scolaire et la vie scolaire. Dans le même temps, nous collectons sur le terrain les innovations et nous aidons à les valider. Parce que tous les jours, il y a des innovations, des gens innovent dans leur travail. Il faut collecter, valider si ce sont réellement des innovations. Nous supervisons les examens et les évaluations dans les établissements. Nous accompagnons les conseillers pédagogiques. Nous savons que les conseillers pédagogiques sur le terrain sont membres du corps d'encadrement et l'inspection pédagogique coordonne les actifs. Dans chaque département, il y a un pool d'inspecteurs. Ça veut dire que plusieurs sortes d'inspecteurs de toutes les matières, mathématiques, physique, toutes les matières qui sont enseignées dans l'enseignement secondaire. Normalement, on doit avoir d'inspecteurs dans chaque. Nous coordonnons l'action de ces inspecteurs. Les IPD. Nous participons à régler les problèmes pédagogiques qui se posent dans les établissements. Et Dieu seul sait qu'il y en a plusieurs. Et tous les jours, on vous a sollicité de ce côté. Il y a tel problème dans tel collège, il y a tel problème pédagogique. Et vous sollicitez. Nous instaurons dans un climat d'incitation et d'émulation pour la bonne collaboration au sein des pôles. Nous assurons la correspondance entre la DIPIC, la direction de l'inspection pédagogique et de l'innovation, de l'innovation et de la qualité, qui est notre hiérarchie supérieure immédiate. Et nous faisons une correspondance avec les collaboration avec les directions départementales. Donc, avec eux, il faut assurer la correspondance aussi. C'est en quelques mots en quoi consiste l'action des IPD.
Alors, parlons spécifiquement du département de l'Atlantique. Quelle est l'étendue du champ à moissonner en termes d'inspection dans ce département?
Oui, le département de l'Atlantique, c'est un grand département sous le point de vue effectif. Nous avons 8 communes qui sont réparties en 8 bassins pédagogiques. Un bassin pédagogique, c'est un regroupement de 10 à 14 établissements. Qu'on appelle bassin pédagogique. Donc, nous avons 8 bassins pédagogiques et dans ces 8 bassins pédagogiques, nous avons 102 établissements publics, dont 97 de l'enseignement secondaire général et 5 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, ça fait 102 établissements publics. Dans le plus, c'est les privés qui sont les plus grands dans le département. Dans l'Atlantique, nous avons 516 établissements privés d'enseignement secondaire et 420 établissements d'enseignement technique. Bon, à savoir qu'il y a des gens d'établissements qui font les deux. Ils donnent l'enseignement général et enseignement technique. Mais nous, on a répertorié ceux qui font enseignement technique. Donc, ça fait 516 fonctionnels. Parce qu'il y en a d'autres qui sont là et qui agissent clandestinement. Donc, c'est 516 pour l'enseignement secondaire général et 420 pour l'enseignement secondaire. Au total, nous avons 3416 enseignants à contrôler, à former, à suivre quotidiennement et de proximité. Et dans ces 3400, il y a plus de 2/3 qui n'ont pas la formation initiale. Tout ce qui concerne les fonctionnaires d'État, ça c'est en voie de disparition. Et ça peut aussi disparaître progressivement et c'est les AME qui sont majoritaires dans ce TT. Nous avons sous nous 42 conseillers pédagogiques et 6 inspecteurs. Et ce qui est là encadrer pendant une année, c'est pas chose facile, mais on s'y met.
Et... J'allais même poser la question, c'est pas si facile. Comment vous vous prenez pour réussir cette tâche-là?
C'est ça.
Parce que c'est énorme.
C'est ça, c'est énorme. Nous, chaque année, nous nous programmons. On ne peut pas tout faire au même moment. Donc, nous faisons une planning et d'établissements à visiter, des actions à animer. Donc, on a diversifié nos actions. Soit on fait animation pédagogique dans un établissement, dans l'autre, on ira faire inspection d'établissement, dans l'autre, on ira inspecter des enseignants. Et si bien que chaque semaine, chaque jour, pour sa tâche. Donc, si je prends une semaine, lundi, mardi, jeudi, on fait inspection d'enseignants en situation de classe. Les mercredis, il y a animation pédagogique. Nous devons partir superviser dans un certain nombre d'établissements. Le vendredi, nous nous réservons ça pour nos rapportages, les rapports de tout ce que nous avons. La semaine qui suit, on dit, bon, lundi, mardi, jeudi, nous allons faire inspection d'établissement. Inspection d'établissement, c'est l'accompagnement des membres du corps de l'administration. Dire comment établir l'emploi du temps, regarder l'emploi du temps des censeurs, dire si c'est bien établi. Dire au surveillant général son rôle dans l'établissement, comment il fait, lui dire ce qu'il fait de mal. Le directeur, comment il gère, c'est lui le responsable, le premier responsable pédagogique de l'établissement. Les conseils à tous ceux-là, c'est ça. Et nous faisons inspection d'établissement. La relation qui existe entre les membres du corps administratif, l'enseignant, les membres du corps de soutien, c'est nous. Nous allons vérifier ça et prodiguer des conseils. Et nous envoyons le rapport à notre autorité hiérarchique pour des décisions à prendre. Donc, chaque jour. Et on programme un certain nombre d'années. Je sais maintenant que je suis en train de tendre vers la fin de parcourir tous les établissements publics de l'établissement. Pendant en 4 ans, il reste 3 où je ne suis jamais encore allé. Quatre ans.
Et en ce qui concerne les établissements privés?
Les établissements privés, c'est ça. La particularité des établissements privés, ils n'ont pas d'enseignants profs. C'est les mêmes que nous voyons dans le public qui se retrouvent majoritairement là-bas. Donc, quand vous allez là-bas, c'est eux que vous revoyez. Donc, on ne les programme pas en tant que tels. Dès que nous quittons un établissement, il y a un établissement. Nous arrivons dans un bassin. Quand on finit avec les établissements publics, on entame les établissements privés qui sont à côté et généralement on rencontre les mêmes enseignants que nous avons déjà vus dans le public. C'est majoritairement ceux que nous retrouvons dans l'enseignement privé. Et là, il y en a qui nous sollicitent. Tel problème ici, venez voir. Parce qu'ils savent que nos actions améliorent les résultats scolaires. Quand les enseignants savent que l'inspecteur viendra tout à l'heure, il peut venir à tout moment, il se prépare, il ne peut pas venir en classe sans fiche. Et c'est ça, la peur du gendarme.
Est-ce que vous les informez tout le temps avant de descendre ou vous le faites
pas? Non. On n'informe pas. Nous connaissons notre programme et nous descendons pour voir. C'est pour voir ce que les gens font naturellement. On ne peut pas venir. C'est pour les inspections diplômantes qu'on avertit pour dire nous venons à telle heure, tu te prépares et nous voulons voir comment tu fais. Mais si ce n'est pas une inspection diplômante, on n'avertit jamais. Quand je veux venir dans un établissement pour faire une inspection d'établissement, je dois venir avant 7 heures pour voir comment les gens arrivent dans l'établissement, comment le directeur, c'est le directeur lui-même, il est déjà là, pour pouvoir voir comment fonctionne l'établissement. Donc, on n'avertit pas.
Ok. Vous disiez tout à l'heure que sur 3466 enseignants, il y a 2/3 qui ne sont pas vraiment informés, qui ne sont pas formés.
Formés, qui n'ont pas la forme.
Comment est-ce que vous mettez en place une formation pour ce beau mandat?
Oui, la formation que nous faisons, c'est notre accompagnement de tous les jours quand nous allons les voir. Celui qui ne sait pas utiliser le tableau, on lui montre comment on utilise le tableau. Celui qui ne sait pas animer une classe, il y a des règles. Et quand nous allons inspecter quelqu'un, nous lui donnons ses règles. C'est l'information continue que nous. Pour ceux qui n'ont jamais fait la formation initiale, ce n'est pas de nous, mais nous organisons des animations pédagogiques. Quand on finit dans l'établissement, on regroupe tout le monde. On a observé quelque chose de ce qui se répète sur tout le monde. On rappelle tous les enseignants qui sont là. On leur dit, venez. Donc, fait la remédiation groupée. Ça veut dire qu'à un ensemble d'enseignants de l'établissement, nous remédions aux insuffisants que nous avons constatés. C'est ça la formation. Et chaque trimestre, il y a une animation pédagogique de zone où on ferme tous les collèges et tout le monde se rassemble dans un lieu et nous envoyons des formateurs et nous les formons. Donc, c'est notre action sur le terrain. Donc, par trimestre, on fait ça. Moi, je me prépare à faire pour la troisième fois dans l'Atlantique le 27 prochain, où tous les collèges vont fermer et tout le monde se retrouve sur des sites de regroupement. Et on envoie des formateurs et ils sont formés. Donc, nous assurons la formation continue. Mais la formation initiale, c'est la direction de l'enseignement secondaire qui organise ça pour les former. Et dans les écoles normales de formation.
Alors, vous disiez également tout à l'heure que vous accompagnez les enseignants dès lors qu'ils ont des innovations. Est-ce que depuis que vous avez commencé 4 ans déjà, vous avez déjà enregistré des innovations dans le rang des enseignants? Si oui, donnez-nous quelques exemples.
Oui, nous avons des enseignants qui innovent. Et pour faire des manipulations, on arrive à faire, par exemple, dans mon domaine de physique-chimie, où on ne peut pas faire le cours sans montrer physiquement le truc à l'élève. Donc, ce n'est pas un cours théorique. Il y en a pour pouvoir rendre pratique leur cours, font des innovations en créant des choses qui ne sont pas des choses venues de Pierron, de l'Europe, mais en utilisant le matériel de récupération. Et tout cela sont capitalisés. Et nous freinons pour dire qu'est-ce qu'il faut améliorer sur ça, qu'est-ce qu'il faut faire ça, par exemple dans mon domaine. Il y a un groupe d'enseignants qui ont trouvé qu'on peut accompagner les enseignants en projetant des images, en parlant de la simulation. Simulation, ça veut dire qu'on projette à l'écran et l'élève voit, à défaut de manipuler, et il va voir pour savoir de quoi on parle. Donc, il y en a de ces choses-là que nous prenons, nous améliorons pour dire leur intérêt pédagogique, est-ce qu'il faut continuer de faire, est-ce qu'il faut pas faire.
Autant d'expériences que vous faites sur le terrain. Et en termes de difficultés, quand vous faites toutes ces expériences-là, est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés sur le terrain?
Oui, il y a beaucoup de difficultés. Parce que, et comme je vous l'ai dit d'abord, quand on a créé les IPD, il n'y avait pas les moyens. Nous, on m'a envoyé dans le département de l'Atlantique quand je suis venu, je n'ai pas trouvé de bureau. Où s'asseoir? Et on était initialement 3 inspecteurs. Et les conseillers pédagogiques étaient au nombre de 54. Où est-ce qu'on va rester? Il faut trouver un bureau. On n'en a pas trouvé. On a cherché le DDA, nous a aidé. On a trouvé une salle de repos des professeurs au lycée technique Gaspard de Casato. C'est ça qui sert de bureau pour l'IPD. Nous sommes 6 inspecteurs, 4 collaborateurs, nous sommes tous dans ce rôle-là. On n'a pas de bureau. Et vous venez là-bas, vous allez nous voir, on se regarde face à face, on traverse, on a des bureaux. Deuxième chose, pour les 6 inspecteurs, on a donné un seul véhicule. Pour travailler dans tout l'Atlantique, un seul véhicule pour 6 inspecteurs. Et ce véhicule n'est pas entretenu régulièrement. Donc, il faut être sur le terrain tous les jours. Comment on va faire? Et aujourd'hui, c'est vous prenez vos voitures, pour aller, et nous, on va prendre le véhicule. Après, c'est nous qui prenons nos véhicules, et les autres prennent ainsi de suite. On va attendre. Et quand on dit l'Atlantique, là, les gens pensent que c'est à côté. Mais il y a plus de 2/3 des établissements qui sont enclavés. Il y en a qui sont sur l'eau, il y en a qui sont dans des zones très difficiles d'accès. Sur l'eau, par exemple, c'est près de 5 établissements. Les Achakamé, tout ça, sont des zones très régulières, très difficiles. Donc, on n'a pas les moyens. Nous sommes là, l'effectif. Parce que j'ai dit que si chaque matière doit être encadrée, mais j'ai seulement 6 inspecteurs. Pour près de 600 enseignants de professeurs, je n'ai pas un seul inspecteur de français. Donc, je n'ai pas d'inspecteur dans toutes les matières. Le numérique, l'effectif numérique des inspecteurs, là. En anglais, on n'a pas. En histoire, on n'a pas. En mathématiques, on a un seul. Pour près de 500. 12 enseignants. Or, le ratio pour un inspecteur, c'est un inspecteur pour 100 enseignants. Nous sommes à un inspecteur pour plus de 400. Conseiller pédagogique, numériquement, j'ai 42. Or, il faut 50 enseignants pour un conseiller pédagogique. Donc, du coup, dans la SPT où j'ai près de 600 enseignants, j'ai 2 conseillers pédagogiques. Donc, ils sont obligés de faire ce qu'ils peuvent, c'est les difficultés que nous avons. Or, le besoin est là. Les gens vous sollicitent et vous ne pouvez. Donc, voilà. On n'a pas de moyens propres pour dire, nous allons faire ceci, et on se lève, on peut faire. Il faut attendre la dotation en capitulation de la typique. Si ce n'est pas là, vous êtes là, vous voulez aller sur le terrain, mais vous vous regardez là, ce qui n'est pas tout. Donc, quand ça vient, on s'y met, et on fait ce qu'on peut. Et réellement, ce n'est pas facile.
Ok, voilà. Vous le disiez tantôt, en français, en anglais, il n'y a pas d'inspecteur. Et comment est-ce que vous faites le travail?
Donc, il n'y a pas d'inspecteur dans le pool. Nous demandons à la direction, à la DIPIC, qui a des inspecteurs qui sont chefs groupe. Et ils programment et nous envoient de temps en temps des inspecteurs dans ces matières. Donc on a un peu de renfort, comme nous sommes proches de la DIPIC. Si nous avons des difficultés, on leur demande. Vraiment, si vous pouvez nous appuyer en français, en anglais, ça fait. Okay. Je pense que le problème sera réglé un peu parce qu'on a recruté 50 inspecteurs qu'on va nous envoyer. Je ne sais pas s'ils vont m'envoyer suffisamment dedans, mais ils sont déjà formés, ils sont déjà remis à la disposition de la DIPIC.
Ok, nous allons prendre un instant pour aller rapidement au studio et revenir à la technique. Retour au studio de la web radio Éduque Action où nous sommes avec l'inspecteur Boniface Guidi et on poursuit avec les questions, monsieur l'inspecteur. Voilà les difficultés que vous avez étalées tout à l'heure et voilà tout le travail que vous faites dans votre département. On va demander quelle est la plus-value que cette réforme des IPD apporte pour le système éducatif béninois vraiment.
Je vous remercie madame. Je dis tout ce que nous faisons. Et c'est pour faire améliorer les résultats scolaires. Plus-value, on doit dire, c'est l'amélioration des résultats scolaires. Dans un premier temps, nous avons notre présence à contribuer à faire baisser le nombre de chefs d'établissement gérant sans respect des tests. Le nombre d'enseignants allant en classe sans fiche pédagogique, ça a diminué considérablement dans l'Atlantique. Nous sommes là, nous suivons chaque semaine par semaine l'évolution de l'exécution du programme. Ça veut dire qu'il y en a qui n'évolue pas, mais avec notre présence, l'évolution dans l'exécution du programme a commencé par évoluer normalement, aller normalement. Nous avons fait diminuer la proportion de déperdition scolaire ou grossesse. Donc, toutes ces actions ont contribué à améliorer les résultats scolaires dans les départements de l'Atlantique. Parce que je suis revenu dans 2010, je suis venu dans les départements, nommé dans les départements en 2018. Et le résultat était 34,26% au BPC. En 2025, nous sommes à 63%. En 2021, nous sommes allés à 63,06% au BPC. Au bac, en 2018, on était à 56,37%. En 2021, nous sommes à 70,43%. Donc, je peux considérer que c'est la plus-value. L'amélioration des résultats scolaires. Et c'est l'objectif de tout ce que nous faisons dans les types.
Et évidemment, cette année, en 2022, les résultats vont encore grimper.
On souhaite ça. Et on œuvre pour ça.
Alors, il n'est plus à démontrer que l'action des IPD sur le terrain est vraiment, vraiment primordiale. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer ces actions-là?
Oui, pour améliorer ces actions, premièrement, je veux demander qu'on nous offre des conditions de travail quand même acceptables, qu'on nous permette d'agir selon notre formation sur les enseignants. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais on n'a pas les moyens de faire. Donc, qu'on nous mette dans les conditions. Deuxième chose, c'est augmenter les effectif. Parce que moi, je suis inspecteur de physique, chimie et technologie. Je ne peux pas aller voir quelqu'un qui fait mathématiques. Il faut nous donner les inspections, augmenter l'effectif numérique des inspections dans les inspections pédagogiques. Il faut au moins que nous passions de un inspecteur pour 400 à au moins un inspecteur pour 100 enseignants. Ça veut dire qu'en mathématiques, il faut au moins 3 inspecteurs. En français, où il n'y en a pas, il faut au moins 3 inspecteurs. Donc, il faut augmenter le nombre d'inspecteurs par matière dans chaque département. Les conseillers pédagogiques, il faut en recruter et mettre à disposition des IPT. Parce qu'ils sont en nombre insuffisant. Et les, ceux qui sont les plus expérimentés sont en train d'aller à la retraite et on ne les remplace pas. Moi, j'étais à 54, je suis venu à 42 parce que plusieurs sont allés à la retraite. Il faut recruter les conseillers pédagogiques, les former et les mettre à la disposition des IPD. Et il faut nous donner un moyen de fonctionnement financier, autonomie un peu pour que nous puissions décider de faire quelque chose, de faire nous-mêmes.
Alors, et ça veut dire que vous n'avez pas, les moyens financiers ne sont pas mis à votre disposition?
Non, non, non. Nous, on n'a pas, la gestion, c'est centralisé là-bas. Et si vous avez besoin de faire vidange, vous demandez, on vous fait vidange. Si vous avez besoin de carburant, vous faites la demande, on vous envoie. Donc, il n'y a pas d'autonomie financière pour les IPD.
Ok. Alors, au départ, vous avez commencé par dire que les IPD sont nommés. Bon. Alors, ils sont en place pour combien d'années?
Bon, les IPD sont nommés et il n'y a pas de délai. Mais s'il y a une faute grave, on enlève, on choisit. Si tu vas à la retraite, on enlève. Et... Donc, on n'a pas un mandat.
Okay.
Donc, les IPD n'ont pas de mandat et nous sommes là et on travaille. Si c'est une année renouvelable. Si tu finis et tu fais bien, l'année prochaine, tu es là. Si tu n'es pas là, si tu ne fais pas bien, on peut te changer à tout moment.
Okay.
Donc, c'est une année renouvelable. Parce que la lettre de mission qu'on nous donne, c'est annuelle.
Ah, d'accord. Ok. Est-ce que déjà, lors de vos descentes sur le terrain, vous avez rencontré des enseignants qui sont dans l'erreur et qui ont été d'une manière ou d'une autre punis?
Oui, il y a beaucoup. C'est le cas, l'expérience capitalisée dans l'Atlantique pour moi, c'est la multiplicité et la diversité des cas qu'on a eu à régler. Je donne un exemple. Un enseignant qui est dans un groupe, il enseigne une sa matière, on fait devoir, tout le monde se rassemble, fait corrigatif, lui trouve que c'est pas bon, et il prend la feuille, il met la même note à tous les élèves. Il prend la feuille de tout le monde, il met 14, 14, 14. Ça, comment vous voulez que... Et on appelle l'IPD pour venir écrire. Ça, il faut le suspendre. Ça, ce n'est pas l'enseignement. Donc, c'est des cas-là sont là. Et on envoie. Il faut que l'administration veut régler. Il envoie, il veut avoir l'avis de l'IPD. Et nous donnons notre avis technique pour ce cas. Il y a des cas où les gens, le conseil pédagogique, dans le cas, l'enseignant lui dit, si il met pied dans la classe, il va le tuer. Il refuse carrément. Ce sont des cas que nous avons. Et il y en a qui veulent voir venir là. Ils escaladent.
Les enseignants?
Les enseignants. Ils laissent le sac là. Fait comme s'ils veulent aller prendre quelque chose. Ils passent par la fenêtre et ils s'en vont et ne reviennent.
Parce qu'ils ne veulent pas être inspectés?
Ils ne veulent pas avoir l'inspecteur. Parce que là, vu vous carré, le véhicule est entré dans l'établissement. Et là, je suis obligé de dire, celle-là, si on a les noms, au moins on peut les enlever de la liste de correction. Au moins, même si on n'a pas de truc prêt pour dire ça, les corrections où nous avons un peu de prime, les gens là, ceux-là qui ont fait ça, refuser l'inspection. Et tu veux corriger les sanctions que nous avons pour le moment appliquées pour les enseignants délicats, avec l'accord du DD, bien sûr. Parce que c'est le directeur départemental qui représente le ministre dans le département. Nous, on représente notre chef hiérarchique, mais nous collaborons avec lui.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes 6. Si c'est inspecteur, la collaboration entre vous, comment ça se passe un peu?
Oh, très bien. Parce que nous comprenons le résultat que nous allons atteindre. Tout le monde comprend que c'est collégial. Chacun dans sa matière. D'accord? Et l'IPD, qui est le responsable du pool, lui coordonne les actions seulement. Parce que moi, je dis, toi, tu as fait quelles sont les difficultés, qu'est-ce que tu as eu dans ta matière, et quel établissement, combien d'enseignants. Et on me fait le point à la fin de chaque mois. Nous faisons la réunion de CODI chaque mois, et on s'entend sur ce qu'on va faire dans le mois, et on s'ébranle, et on revient, et la collaboration est très bonne.
Ok, vous êtes, les IPD sont sous l'instruction de l'inspecteur général.
L'inspecteur
à quelle fréquence vous lui faites des rapports sur ce que vous voyez sur le terrain?
Nous devons déposer, nous avons l'obligation de faire un rapport mensuel et trimestriel. La lettre de mission nous demande de lui faire rapport trimestriel. Mais chaque mois, tout ce que nous avons fait et chaque inspecteur a fait dans le mois, on lui envoie ça dans le procès verbal de notre réunion mensuelle. Il doit être au courant. Et c'est à chaque trimestre qu'on lui fait le bilan de tout ce qui s'est fait dans les trimestres. C'est systématique.
Alors, est-ce qu'il arrive que des inspecteurs délégués comme vous, vous êtes parfois inspectés aussi?
Oui.
Ah oui.
Il faut évaluer l'action de l'IPD. Mm-hmm. Il y a une grille, on vient, la commission vient pour voir tout ce qu'on a dit là. Est-ce que vous faites? Je vais voir. Et vous donnez les rapports. Vous avez fait inspection. Combien? Et il faut donner le rapport d'inspection. Il faut qu'on ait le nombre de, si vous avez dit j'ai fait 5 inspections, il faut qu'on trouve les rapports d'inspection. Si vous avez dit vous avez fait animation pédagogique, il faut faire. Il y a les outils qui sont mis à notre disposition. Et quand vous finissez, on appelle les outils de reddition de compte. Et que nous envoyons toutes les fois. Tout ce que nous faisons, nous devons rendre compte systématiquement à l'autorité. Donc, quand les autres descendent pour vérifier si ce que vous leur avez dit là, c'est vrai, ils viennent pour contrôler. Et c'est l'évaluation des IPD. Chaque année, ça se fait. D'accord? Donc, voilà. Donc, l'autorité nous suit de loin, de la DIPIC, ils suivent tous les 12 IPD. Et chaque instant, la commission arrive à tout droit. Nous avons, dans nos collaborations avec la direction départementale, si l'IGM arrive à la direction départementale, il regarde aussi ce que nous faisons. Nous sommes aussi interrogés dans ce cadre aussi.
Ok. Et donc, il y a certainement aussi des sanctions pour...
Sûrement, parce que j'ai dit, quand la lettre de mission est une fois annuelle et que si l'année, le résultat n'est pas concluant, on peut vous enlever. Alors, si on renouvelle votre mandat, ça veut dire qu'on a accepté quand même ce que vous avez fait.
Alors, est-ce que les 12 départements que nous avons aujourd'hui ont tous des IPD?
Oui, les 12 départements ont tous des IPD.
Ah, donc, nous avons au total 12 IPD sur le maintenant. Territoire.
Mmh. Au départ, c'était 6. Quand on a créé 12 départements, il y a 12 IPD. Dans tous les départements, il y a les IPD.
Alors, nous espérons que pour cette année, l'année 2022, les actions que vous aurez à poser ou que vous avez déjà posées, que vous allez continuer à poser, puissent porter de fruits afin que nous ayons, au lieu de 70 pour cette année, que nous ayons, pourquoi pas 100%.
100%, on le souhaite, c'est le souhait. C'est ce qu'on a signé, c'est 90% au moins. Le ministre nous demande.
Alors, combien est-ce que vous vous donnez, quelle marge pour cette année-ci? L'année passée, c'était 70.
70, ouais. Et je souhaite que ça soit 90.
Oh, on va espérer, on va vous suivre de près dans ce cas. Alors, monsieur l'inspecteur, nous sommes en train de terminer l'émission comme ça. Et vous avez ne serait-ce qu'une minute pour conclure.
Merci, madame. Ça allait vite. Hein. Je vais dire que la réforme de déconcentration, décentralisation de l'inspection et bonne réforme. Le réseau d'animation pédagogique REAP doit être activé. Parce que plus ce réseau est dynamisé, plus les résultats s'améliorent. Nous avons, je dis bien que le gouvernement de la rupture a bien fait de décider dans le PAG le bon fonctionnement des IPD. Mais il nous faut nous accorder les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. C'est ce que je veux dire et c'est mon souhait. Parce que nous pouvons faire beaucoup. Nous avons beaucoup de capacités qu'on n'arrive pas à exploiter. Faute de moyens.
Ok. Merci beaucoup à vous, monsieur Guidi Boniface. Mmh. C'est bien ça, hein?
Oui, oui.
Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Il était question de la réforme sur les inspecteurs pédagogiques délégués IPD. Et l'inspecteur Boniface Guidi était notre invité. À la présentation, Estelle Digré, assistée de Destin Sovimi. À la mise en onde est assurée par Ferdinand Zamba, assisté de Gilles Chris Orobilly, réalisation Romuald Logbo, coordination éditoriale Ulrich Vital Arotondji. Merci à vous d'avoir été des nôtres et à la prochaine. L'invité, c'est le meilleur des rendez-vous radiophoniques en ligne.